Alors bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Alors merci de nous recevoir ici au siège du Front National à Nanterre, au Carré, pour un numéro des grands formats de Sans Langue de Bois. Alors il y a juste une règle à cet entretien et c'est le titre de l'émission. Vous devez répondre à mes questions sans langue de bois. Vous l'acceptez ?
Je l'accepte, mais c'est un peu ma marque de fabrique.
Très bien.
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une critique qu'on formule à mon égard, en règle générale.
Alors, je serai là, évidemment, pour y veiller. Je serai là pour vous interroger dans une première partie, puisqu'il y a trois parties, des formations professionnelles obligent. Dans une première partie sur l'orientation politique du Front National. Ensuite, viendra un volet économique. Et ensuite, nous passerons à des questions qui vous sont rarement posées dans les médias traditionnels. Nous parlerons santé et environnement. Mais d'abord, dans une première partie, parlons donc de l'orientation choisie par votre parti, le Front National. Puisqu'en effet, en novembre dernier, une campagne de communication était lancée, affiche noire, votre visage en grand et en couleur, en haut, en petit, des visages pâles, en noir et blanc, de Jean-François Copé à François Hollande, en passant même par Jean-Luc Mélenchon, ceux que vous appelez les représentants du système UMPS, et le slogan « Une autre voie ». Alors, quelle est donc cette autre voie que propose le Front National ?
La réalité, c'est que si vous voulez, l'analyse qu'on peut faire, c'est que le clivage gauche-droite a en réalité disparu. La droite et la gauche partagent un très grand nombre des grandes options économiques, notamment. Et le Front National, je crois, représente la nouvelle fracture véritablement idéologique qui traverse le pays, c'est-à-dire les défenseurs de la nation d'un côté que nous représentons et les défenseurs du mondialisme de l'autre. Ce mondialisme, il est porté par l'Union européenne et il est défendu par l'ensemble de la classe politique française. Il consiste à l'effacement des frontières, à la soumission à une feuille de route imposée par une superstructure, en l'occurrence européenne, dont l'objectif est d'organiser la future gouvernance mondiale. Donc c'est vrai que je crois que le Front National représente réellement une autre voie politique, VOIX, et une autre voie VOIE. Voilà. Et je plaide en toutes circonstances pour faire émerger la véritable fracture qui est celle entre les nationaux et les mondialistes.
Et vous n'avez pas un peu l'impression, quand on vous entend stigmatiser le système UMPS, même si on a bien compris donc la fracture que vous dessinez, que derrière ça, il y a quand même un peu la rhétorique du tous pourris, qui est un petit peu nuisible à la démocratie, puisqu'elle discrédite la classe politique.
Ah, la vérité serait donc un obstacle à la démocratie. C'est étonnant comme démarche, ça, parce que la vérité, normalement, doit toujours œuvrer à un fonctionnement démocratique, ainsi que la transparence. Or, il est évident que tous pourris, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais presque quand même. Les affaires de corruption, notamment, qui ont émaillé, je veux dire, l'histoire politique, ont touché l'ensemble des grands partis, sans que ceux-ci, d'ailleurs, ne se sentent obligés d'y apporter la moindre réponse. Aujourd'hui encore, les affaires Bettencourt, les affaires Karachi, l'affaire du compte de campagne de M. Balladur, etc., etc., sont, semble-t-il, des développements auxquels les Français se sont en quelque sorte habitués. Mais nous ne nous habituons pas à ça, nos slogans étaient hautes et mains propres, et nous continuerons à dénoncer par conséquent effectivement cette collusion qui existe entre les tenants du système, et dont une des plus belles démonstrations va être d'ici quelques semaines d'ailleurs la lutte contre le non-cumul. Là vous allez voir l'UMP, le PS, le grand syndicat de défenseurs de la gamelle, qui vont ensemble évidemment lutter contre cette loi sur le non-cumul qui vise en réalité à diminuer leur pouvoir.
Alors, je voulais vous dire quand même que, en voyant cette affiche et cette campagne de communication, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi une deuxième lecture à cette autre voie, une lecture un peu interne. Parce qu'en effet, force est de constater, Marine Le Pen, que depuis que vous êtes devenue présidente du Front National le 16 janvier 2011, vous avez ouvert aussi une autre voie au Front National, et on le sent bien dans votre discours, cette fracture mondialiste, nationaliste, elle est assez nouvelle, telle que vous la décrivez dans le discours du Front National. Les médias ont parlé de dédiabolisation, de normalisation, vous auriez voulu sur la forme rompre avec certaines outrances verbales de la présidence, notamment de votre père. Sur le fond, c'est vrai, vous parlez plus d'économie, on l'a senti dans cette introduction, vous parlez peut-être un peu moins des sujets traditionnels du Front National, immigration, insécurité, mais est-ce que vous êtes vraiment capable de changer les choses au Front National ? Je m'explique. En effet, vous avez parlé d'un rassemblement bleu marine après la présidence qui devrait qui aurait pu succéder au Front National en tant que parti politique. Finalement, ce sera une association régie par la loi de 1901 qui, je cite, est là pour rassembler les patriotes français. Est-ce que c'est parce que le Front National pèse un petit peu comme cadre ?
Non, je crois encore une fois que le Rassemblement et Bleu Marine a vocation à être une plateforme électorale et à préparer ces plateformes électorales. Je crois que les Français, d'ailleurs, ont compris que nous étions aujourd'hui dans une démarche de rassemblement. C'est ce qui ressort des études d'opinion de TNS Sofres, hein, qui indique que près de 70% des Français considèrent qu'on peut rassembler au-delà de notre camp, parce que beaucoup de Français partagent les opinions qui sont celles du Front National. Alors, améliorer l'image du Front National, lutter contre l'injustice qui lui a été faite, multiplier les points d'entrée dans son discours, et notamment en développant des thématiques effectivement sont un peu nouvelles pour notre mouvement politique. Professionnaliser le Front National. Bien sûr, tout cela, c'est une obligation. C'est en tout cas, moi, la démarche qui est la mienne, ce sont les missions hein, que je me suis données, les missions auxquelles je me suis engagé lorsque j'ai mené la compétition interne. Je crois que ceci est en bonne voie et que nous avons enregistré dans tous ces domaines un très grand nombre de succès. Maintenant, il est évident que rassembler, c'est admettre demain d'attirer à nous des gens qui seront d'accord à 90%, à 80% ou à 70% avec notre projet. C'est un peu une révolution culturelle, mais il va falloir la faire parce que l'objectif, c'est de faire 50% des voix plus une, c'est-à-dire essayer de rassembler les Français sur les grands principes de gouvernance que nous portons depuis longtemps et sur lequel, il faut bien le dire, les faits finissent quand même toujours par nous donner raison.
Donc Marine Le Pen, on a compris cette voie, cette autre voie, même s'il y a d'autres sensibilités. On va passer maintenant au volet économique et puisque c'est une nouveauté dans le Front National depuis quelque temps, vous parlez beaucoup d'économie et je voudrais vous interroger sur l'accord sur la sécurité de l'emploi qui a été signé le 11 janvier dernier entre le patronat et trois syndicats, CGC, CGE et CFDT, CFTC. Cet accord sur l'emploi, vous dites sur le site du Front National, vous appelez à une pétition pour lutter contre lui, puisque vous dites que c'est les PME qui sont oubliées et les salaires sacrifiés. C'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, ce qui est très frappant dans la classe politique, c'est son incapacité à mener la réflexion sur comment créer de la richesse dans notre pays, comment protéger notamment notre industrie, dont on voit bien qu'elle est mise en cause, y compris dans sa survie. 1000 entreprises perdues en l'espace de 3 ans, c'est absolument spectaculaire. Or, la seule chose qui est capable de faire le gouvernement et le patronat, avec l'accord d'un certain nombre de syndicats complices, c'est comment mettre en œuvre les soins palliatifs. Hein. Comment est-ce qu'on va accompagner la mort pour qu'elle soit, somme toute, la plus douce possible. Et moi, je conteste formellement cette vision des choses. Je pense que l'accord qui est passé est un accord d'ailleurs qui fait partie de la feuille de route imposée par l'Union européenne. La flexibilité est une idée des mondialistes dans l'objectif exclusif de pouvoir faciliter la vie des grands groupes et non pas d'ailleurs des PME, PMI, et c'est un des reproches que je peux faire. Le problème, c'est que on est en train de sacrifier 50 ans d'acquis. Car enfin, il faut pas se raconter d'histoire. Quand on accepte que les grands groupes puissent passer du jour au lendemain des salariés, leur baisser du jour au lendemain de 30% leur salaire, comment est-ce qu'on vit comme ça? Je veux dire, comment est-ce qu'on fait un emprunt pour une maison? Comment est-ce que on est capable d'envisager l'avenir pour des salariés lorsqu'on ne sait pas si demain on va pas avoir son salaire baissé de 30% ou ses horaires baisser de manière unilatérale. Donc, je veux dire, mettre en place des soins palliatifs sans s'attaquer aux causes de la maladie, ça va paraître une véritable supercherie dont, évidemment, les salariés sont les premières victimes et dont les PME-PMI, qui sont, à mon sens, je veux dire, le moteur de l'économie française, ne tireront en l'occurrence aucun bénéfice.
Et vous parliez de flexibilité à l'instant. En effet, dans cet accord, il y a la possibilité pour une durée de 2 ans, alors ce qui est quand même pas rien dans le contexte économique actuel, de manière provisoire, donc pour le patron, réduire les salaires ou augmenter le nombre d'heures de travail en contrepartie de la garantie de l'emploi. C'est un modèle, on l'entend beaucoup dans les médias, qui a fait ses preuves à l'étranger, en Grande-Bretagne. Vous y croyez pas du tout ?
Non, j'y crois pas. Enfin, je crois aussi, sûrement, les entreprises vont tirer un bénéfice, les grandes entreprises, celles qui n'en ont pas besoin, en fait. Ça, c'est ça, en fait. L'idée, c'est que les entreprises qui auraient besoin, je veux dire, d'avoir de l'oxygène, les PME, PMI n'en ont pas. En revanche, les grands groupes qui, en réalité, n'ont pas besoin de cela, eh bien, elles vont bénéficier. Bon, ben, je pense que c'est la conclusion de la financiarisation de l'économie. Hein. La seule question qu'on se pose, c'est comment continuer à voir augmenter les dividendes qui sont versés, je veux dire, aux actionnaires, sans qu'il n'y ait aucune autre condition qui soit exigée, et notamment la condition de l'emploi en France, qui m'apparaît pourtant être une priorité.
Alors vous parlez d'un accord favorable au patronat et qui donc au détriment des PME, au grand patronat, oui, au détriment des PME et des salariés. Alors cependant, j'ai quand même, en lisant et en écoutant vos interviews sur le sujet, j'ai quand même eu l'impression de voir un petit paradoxe là-dessus, parce que si on regarde quand même l'ensemble des 12 principales propositions de cet accord, à côté des deux mesures que vous stigmatisez, on l'entend bien là, à savoir le changement de modalité des licenciements économiques et puis la flexibilité dans l'entreprise, il y a quand même des mesures qui semblent aller du côté de la sécurité de l'emploi, c'est-à-dire le titre de l'accord. On a par exemple, je vous en cite certaines, vous reviendrez après dessus, la généralisation des complémentaires santé.
Je suis complètement bidon.
Pour l'instant, il y a 3,5 millions d'employés, notamment des PME, PMI et TPE dont vous parlez, qui n'en bénéficient pas.
Non, mais c'est complètement bidon, ça. Ça, il ne faut pas se laisser avoir par ce type de contrepartie. Ce sont des contreparties qui n'apportent pas, évidemment, un réel avantage. Et pour cause, ça leur fait une belle jambe, je veux dire, d'avoir une complémentaire santé s'ils se retrouvent avec un salaire diminué de 30%, quoi. Je veux dire, il faut arrêter à un moment donné, il faut avoir le sens des priorités. Je pense que là, il y a quand même là aussi une malhonnêteté. Il y a une autre mesure, par exemple, qui est la facilitation du licenciement économique pour les grandes entreprises. Si je peux me permettre, je vais prendre cet exemple-là parce que je voudrais pointer du doigt, encore une fois, la profonde malhonnêteté du système. Ces grandes entreprises payent beaucoup moins d'impôts que les PME-PMI, hein, puisqu'elles font de ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'elles se servent en réalité de leur succursale ou de leur filière à l'étranger pour pouvoir annoncer des pertes dans le pays où elles doivent payer le plus d'impôts pour payer le moins d'impôts possible. Les groupes du CAC 40 payent 8% d'impôts en moyenne, les PME-PMI en payent 33%. Voilà la situation. Or, pour les licenciements collectifs, en revanche, non. C'est-à-dire que, alors qu'elles arrivent en disant « nous avons un problème, économiquement nous avons un problème de baisse de commandes », à ce moment-là, on devrait envisager l'ensemble du groupe pour voir s'ils peuvent bénéficier des conditions facilitant le licenciement grâce au licenciement économique. Licenciement économique qui coûte à l'État quand même. Eh bien non, là, on ne regarde que la succursale. Bon, ben voilà, je pense que tout ce système-là est un système qui va à l'encontre de la défense de l'emploi. Et puis encore une fois, revenons quand même à l'essentiel. Pourquoi faciliter les licenciements avant même de se poser la question de savoir si on ne pourrait pas préserver les entreprises, notamment de la concurrence internationale déloyale, dont nous savons qu'elle est à 70% la cause principale de la destruction des emplois industriels.
Et alors comment on fait, Marine Le Pen ?
Eh bien, on met en place des protections aux frontières. On fait comme font les autres pays. On fait comme fait le Canada, comme font les États-Unis, la Chine, le Brésil, c'est-à-dire toutes les nations, qu'elles soient plus petites, plus grosses, plus riches, moins riches, plus, peuplées, moins peuplées, toutes elles protègent par un protectionnisme intelligent aux frontières la concurrence internationale déloyale. Voilà. Et lorsque l'on voit que BIC, par exemple, l'entreprise BIC, aujourd'hui tire la sonnette d'alarme en disant il existait des protections aux frontières européennes par rapport aux produits fabriqués en Chine, vous envisagez de les supprimer, eh bien moi je vous dis que nous allons mourir. Bon, est-ce que oui ou non on va tenir compte de cette situation? Deuxièmement, en mettant en place un avantage donné à nos entreprises françaises sur les marchés publics, pensant c'est quand même normal que l'État et les collectivités territoriales qui dépensent de l'argent public, c'est-à-dire de l'argent qui provient des sacrifices, des impôts payés par les Français, eh bien, fassent passer en priorité dans leur marché public les entreprises françaises.
Du coup, ça doit vous faire plaisir quand vous entendez un ministre de la République comme Arnaud Montebourg qui dit qu'il faut produire français, qu'il faut mettre en avant le made in France, la marque France.
Oui, très bien, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ce que je voudrais, c'est que parallèlement, M. Montebourg n'aille pas participer à l'inauguration de l'usine Renault à Oran. Voilà. Parce que je pense que c'est quand même très contradictoire entre les propos qu'il tient et les actes qu'il mène. Et qu'il, somme toute, se félicite, enfin en tout cas, ne condamne pas la baisse de 1700 emplois chez Renault, expliquant que non, c'est pas vraiment des suppressions d'emplois. Si, ce sont des suppressions d'emplois. Donc, c'est un discours qui se veut, entre guillemets, national, mais les actes, eux, sont profondément et toujours mondialistes.
Alors, vous parlez sans langue de bois à l'instant. Je vais vous demander de continuer à le faire et on va revenir sur l'accord sur l'emploi. Il n'y a vraiment rien, Marine Le Pen, sans langue de bois, dans cet accord qui soit positif pour les salariés ?
Mais si, il peut y avoir, si vous voulez, tout le problème d'un accord, c'est les contreparties. Il y a un certain nombre de choses positives, mais la contrepartie qui est celle réclamée aux salariés est catastrophique. Voilà. Elle va entraîner un appauvrissement des salariés français. Elle va entraîner ce que réclame d'ailleurs le grand patronat depuis des années et des années, en réalité, une pression à la baisse sur les salaires, une déflation salariale qui a déjà été obtenue par le grand patronat grâce à l'immigration, car l'immigration est un des moyens spectaculaires de déflation salariale. Et je pose une fois de plus la question, est-ce que les Français sont conscients que les syndicats sont complices de cette situation et que les manifestations organisées pour défendre l'emploi ne sont qu'une manière de canaliser la colère des salariés, car enfin, n'allons pas très loin et regardons le comportement des syndicats allemands, par exemple, eh bien les syndicats allemands condamnent de manière la plus virulente qui soit le recours à l'immigration supplémentaire, indiquant très précisément ce que je dénonce depuis des années, à savoir que l'immigration dans le cadre d'un marché du travail, qui est un marché, hein, c'est l'offre et la demande, eh bien, est un des moyens d'opérer une déflation salariale. Déflation salariale qui, en France, s'accompagne d'une augmentation massive des prix, dont on parle là encore très peu, et qui entraîne, écoutez, le fait que notre pays est en voie de sous-développement.
Alors, pour être très précise sur l'accord, il n'y a que 3 syndicats français qui le signent, donc pas tous les syndicats, ne faisons pas d'amalgame là-dessus. En revanche, je voudrais revenir sur un des points que vous signaliez tout à l'heure, l'oubli des PME ou alors le problème qui est posé aux PME par la fiscalité, même par cet accord qui accroît, selon vous, les problèmes des PME. On a un peu l'impression, et notamment en lisant un peu votre site et votre programme de campagne, que vous draguez un petit peu les PME. Alors, sur votre site, accompagnant la pétition, vous avez une vidéo où vous expliquez, un peu comme vous l'avez fait tout à l'heure, le pourquoi de votre opposition à cet accord en argumentant. Et vous avez cette phrase, je trouvais assez symptomatique. Rappelons-le, en effet, la vitalité économique de notre pays, ce sont nos TPE, nos PME et nos PMI. Ce sont elles qui créent l'emploi en France. Ce sont elles qui sont l'innovation, notre richesse de demain. Alors, selon les chiffres de l'INSEE, j'ai regardé en 2010, on a effectivement 47,5% de l'emploi salarié français qui est fait par les ETI, ces établissements de taille intermédiaire et les grands groupes, et donc 52,5% de l'emploi qui est bien fait par les PME, TPI et TPE. Alors bon, on voit quand même que, vous dites, ce sont eux qui créent l'emploi. Oui, mais bon, les grands groupes aussi, les ETI aussi, c'est un petit peu caricatural. Après, quand on regarde la richesse, on voit que seulement 38,4% du chiffre d'affaires généré par l'ensemble des entreprises françaises est fait par les PME, PMI et TPE, alors que ce sont...
Oui, enfin, vous oubliez là-dedans les artisans et les commerçants quand même.
Oui, mais on ne parle que des entreprises ici.
D'accord.
Ce sont les chefs de l'INSEE qui ne parlent que des entreprises, pour pouvoir comparer. On ne peut pas comparer une structure d'entrepreneuriat à une structure d'artisan. 61,6% donc du salaire général généré par les entreprises françaises en totalité, c'est les ETI et c'est les grands groupes.
Mais
et si on regarde à l'export...
Et les impôts.
Oui, bien sûr, vous l'avez signalé tout à l'heure, mais si on regarde à l'export, les TPE, les PME et les PMI, ce sont seulement 17,7% du salaire général est généré à l'export contre 82,3%. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, je suis pas en train de faire l'apologie des grands groupes ni des ETI. Je signale juste que dans votre discours, est-ce que vous avez pas un peu l'impression d'idéaliser les PME, et par là, on peut les idéaliser, il y a de l'innovation, il y a de la richesse, mais par là, de fermer les yeux sur des problèmes structurels des PME qui sont leur incapacité à aller vers l'export et le commerce
mais
extérieur.
Elles ne vont pas vers l'export parce que l'État non plus ne met pas en place les conditions pour leur permettre d'y aller. Je vous signale que l'État allemand fait tout ce qu'il peut pour accompagner les PME, les PMI à l'export. L'État français ne fait strictement rien pour ça. Or, ce que vous omettez d'indiquer dans les chiffres que vous donnez, c'est une réalité terrible. C'est qu'en réalité, les PME, PMI sont pillés par les grands groupes. Voilà. Et ça, on n'en parle jamais. Oui, ce sont toujours les PME, PMI qui font l'innovation. Ce sont toujours elles qui créent les brevets. Mais à partir du moment où elles font l'innovation, le grand groupe arrive, il met la main sur le brevet. Parfois d'ailleurs pour le mettre dans le tiroir, parce que c'est un brevet qui risquerait d'entacher ses propres résultats. Et les grands groupes se comportent particulièrement mal, bien souvent, à l'égard des PME-PMI. Sauf que, encore une fois, l'État ne met pas en place les conditions de protection économique pour que les PME-PMI puissent se développer.
Mais c'est ça,
et notamment se développer à l'export.
C'est ça qui est intéressant,
mais,
Marine Le Pen, dans
mais,
votre discours.
Mais dans les élites économiques, je suis toujours très étonné de voir cette espèce de fascination pour l'export. On ne parle que de l'export, mais on peut pas repartir à la reconquête de notre marché intérieur, parce que ça aussi c'est quand même un bon moyen de pouvoir avoir des chiffres qui passent du rouge au vert, de repartir à la conquête de notre marché intérieur quand on voit que le déficit de la balance commerciale est aussi la conséquence, bien entendu, d'une importation massive. Donc moi je suis contente que nos entreprises exportent et que nos grands groupes exportent, mais s'ils exportent et qu'ils créent de l'emploi à l'extérieur de la France, ça m'intéresse pas. Moi, si on vend des avions sur lesquels il y a marqué en énorme chômage, ça ne m'intéresse pas, vous voyez, à l'extérieur. Ce que je veux, c'est voir l'économie de mon pays se développer et l'emploi en France se développer. Alors très bien, Renault va construire des usines à Alger, va construire des usines au Maroc, parfait, ils vont avoir des très beaux résultats, mais à nous, ça nous apporte quoi? Je veux dire, c'est ça, au-delà de l'image de nos grandes entreprises qui vont, à la conquête des marchés. Moi, ce que je voudrais, c'est que la conquête des marchés extérieurs ne soit pas payée le prix fort par les salariés français, par la disparition de l'activité sur le territoire national.
Ce qui est intéressant, Marine Le Pen, dans le discours que vous tenez, c'est effectivement l'État qui n'aide pas assez les PME. Moi, j'ai envie de vous dire, plutôt que de vous entendre parler, comme on entend partout, et pas seulement vous, des grands groupes rapaces, etc., moi, j'ai envie de vous demander concrètement comment on aide ces PME à se tourner à l'export. Et pas que, j'ai bien compris. Mais vous avez compris aussi que dans les chiffres que je vous citais, les PME ne sont pas non plus celles qui font le plus de chiffre d'affaires à l'intérieur en France. Donc comment on accompagne les PME ?
Je suis pas d'accord, car encore une fois, vous faites une division selon les entreprises. Vous oubliez les artisans et les commerçants qui sont des entreprises. Voilà. Et la réalité, c'est que d'ailleurs, les commerçants et les artisans devraient être considérés comme les entreprises.
C'est le problème de l'auto-entrepreneuriat.
Et ils devraient être d'ailleurs, comme ça a été le cas, ce que j'ai proposé pendant la campagne présidentielle, ils devraient être soumis à l'IS d'ailleurs. Voilà, comme ça, ça leur permettrait aussi, je veux dire, de pouvoir bénéficier des règles qui sont accordées en termes de chiffre d'affaires, de fiscalité aux entreprises. Et si vous y rajoutez les artisans et les commerçants, permettez-moi de vous dire que la part des grands groupes dans la création d'emplois va considérer considérablement baissé. Donc, je n'ai pas une vision idéologique. Je ne combats pas les grands groupes pour le plaisir de les combattre pour des raisons idéologiques comme M. Mélenchon. Je remarque juste qu'ils ne jouent pas le jeu. Voilà. Et qu'ils ne jouent pas le jeu avec l'accord, avec la complicité de l'État.
Et là, vous reparlez encore des grands groupes. Moi, j'aimerais qu'on parle...
Excusez-moi, ça me paraît...
Ma question, c'était sur les PME. Comment on fait concrètement pour...
Alors d'abord, il faut s'intéresser à comment est-ce qu'on crée une trésorerie pour les PME et les PMI. Car le gros problème, aujourd'hui, est un problème de trésorerie. Parce que les banques ne jouent pas le jeu non plus et qu'elles ne financent plus l'économie réelle. Bon. J'avais fait une proposition qui, d'ailleurs... avec lequel j'avais eu l'occasion de présenter à un certain nombre de responsables justement de grandes sociétés qui étaient d'accord pour le mettre en œuvre, en réalité faire contribuer les 50 plus grosses capitalisations boursières au financement d'un fonds à destination des PME-PMI. Il y a toute une série de mesures qui peuvent être assez simplement mises en œuvre et qui vont pouvoir permettre de donner de la trésorerie aux entreprises. Par exemple, vous savez que selon la nature de votre activité, vous payez la TVA soit à l'encaissement, soit à la facturation. Eh bien, j'avais proposé que la TVA soit systématiquement payée à l'encaissement. Ce sont des mesures qui paraissent dérisoires, qui sont pourtant considérables parce qu'elles permettent de donner un oxygène aux entreprises dont une grande partie sont en situation délicate, non pas parce qu'elles n'ont pas de carnet de commandes, mais parce qu'elles n'ont pas de trésorerie. Il y a, encore une fois, obliger, par exemple, l'État ou les collectivités territoriales, dans le cadre des marchés projets publics qu'elles mettent en œuvre, de pouvoir les ouvrir aux PME-PMI. Car bien souvent, on s'aperçoit que les marchés publics sont organisés pour que seuls les grands groupes puissent en réalité obtenir ces marchés publics. Ainsi, des marchés qui pourraient être parfaitement divisés en lots pour permettre à des PME d'intervenir sont présentés de manière globale pour eh bien, que ce soit Bouygues en réalité qui récupère le dossier ou Veolia ou je ne sais lequel. Voilà, je crois qu'il y a quand même, permettez-moi de vous dire, il y a une sorte de complicité d'intérêt entre le monde politique et ces grandes entreprises, dont on s'aperçoit d'ailleurs que dès qu'un politique est battu, il trouve du boulot où ? Dans un grand groupe. Alors on case machin qui a été battu aux élections à Veolia, ou on le case chez L'Oréal. Tiens, L'Oréal, grosse machine à recycler les politiciens battus, hein, etc., etc. Donc cette consanguinité m'apparaît tout à fait contraire, d'abord à l'intérêt de l'économie française, et deuxièmement à la démocratie, tout simplement.
Je suis désolé de revenir à ma marotte, mais on s'en éloigne un petit peu. Je voudrais qu'on revienne aux PME, désolé,
et pas
aux grands groupes dont vous finissez toujours par revenir. J'aimerais qu'on parle de ce rapport jaune, l'annexe de la loi de financement de 2012, un rapport de 150 pages qui est entièrement dédié aux PME, PMI, et ça vous faire plaisir à l'artisanat également. Vous l'avez lu, évidemment, il est assez imbouffable comme rapport. Il fait justement, il va dans le sens dont vous parlez un petit peu, de l'aide secteur par secteur, ministère par ministère, dédiée aux PME. Comment vous jugez ça ? Ça, c'est un bon point de l'action gouvernementale ou pas du tout ?
Non, mais écoutez, tant qu'on ne permettra pas aux entreprises de pouvoir développer leur action en les protégeant de la concurrence internationale déloyale, toutes les mesures que l'on prendra seront des mesures, des cautères sur des jambes de bois.
150 pages qui ne servent à rien. Le rapport jaune, c'est ça.
Mais encore une fois, à partir du moment où vous mettez les entreprises en concurrence déloyale avec le monde entier, il ne faut pas s'étonner après que ces entreprises soient obligées de fermer, de mettre les clés sous la porte. Voilà, si vous voulez, on laisse des gens vous donner une cuillère d'arsenic à quelqu'un tous les jours et vous dites, bah, on a réfléchi et puis on va vous donner en plus de la cuillère d'arsenic un comprimé de paracétamol. Bon, c'est bien, sûrement très bien, mais ça ne réglera pas les conséquences de la cuillère d'arsenic qu'on leur fait avaler tous les jours.
Rapidement, oui ou non, ça sert à rien ce rapport ?
Non, je crois qu'il servira pas à grand chose.
Et alors, tout à l'heure, vous parliez des grands groupes, vous disiez, oui, la classe politique, elle se compromet avec les grands groupes. Est-ce que vous ne pensez pas que si vous arrivez un jour au pouvoir, vous serez obligé, on parlait de contrepartie tout à l'heure dans l'accord sur l'emploi, vous serez obligé de traiter avec les grands groupes, et oui, d'avoir des contreparties avec les grands groupes ?
Non.
Non ?
Je ne le pense pas, non. Non, non.
C'est cette autre voix que vous appelez, elle est...
Non, je ne le pense pas. Encore une fois... on voit bien qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Le problème, c'est que l'intégralité des dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont enfermés en fait dans ces liens justement avec les grands groupes. On avait dit que on ferait en sorte d'éviter justement ce dont on parlait, que les grandes entreprises du CAC 40 payent 8% moyenne d'impôt et les PME payent 33%. Est-ce que quelque chose a été fait ? Non. On a promis François Hollande a promis pendant la campagne ce que j'avais réclamé d'ailleurs et défendu dans le cadre de mon programme présidentiel. Savoir un impôt sur les sociétés progressives pour les PME-PMI, justement pour baisser la charge fiscale qui pèse sur elles. Ça a été promis, ça n'a pas été fait. On a proposé, je l'avais proposé dans mon programme, la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. La proposition qui est faite est dérisoire. C'est une proposition tout à fait à minima pour obliger les banques à aussi reconcentrer, encore une fois, leur action vers le financement de l'économie réelle. Ça n'a pas été fait. Donc voilà, je pense qu'ils ne feront rien. Et encore une fois, les PME, PMI vont également être la victime directe d'un autre phénomène, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Parce qu'on ne peut pas sauver des entreprises si on tue leurs clients. Comprenez ? À partir du moment où on œuvre à la déflation salariale, à partir du moment où on ne fait rien pour protéger le pouvoir d'achat des Français, face à toutes les hausses de l'énergie, du gaz, de l'électricité, des assurances, des mutuelles, etc., eh bien, vous allez avoir des clients dont le niveau, évidemment, de capacité de consommation va baisser et qui vont donc impacter directement les PME et les PMI. Voilà, donc une économie, c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Nous sommes aujourd'hui dans un cercle vicieux. Je pense qu'on ne peut pas parler d'économie comme on la découper en tranches de saucisson. Il y a un cercle vertueux à remettre en place, et ce cercle vertueux vertueux, il passe par toute une série de mesures, dont une des premières mesures est effectivement la mise en œuvre de protection intelligente aux frontières et de lutte contre l'intérêt même de la délocalisation.
Peut-être être un peu polémique, mais à vous entendre, sous couvert de lutter contre les grands groupes, pour les salariés, vous n'avez pas l'impression plutôt de vous soucier du petit entrepreneur ?
Non, mais moi, je lutte pas contre les grands groupes. Je voudrais qu'ils respectent les mêmes règles que les autres. Voilà, c'est tout. Je lutte pas, je suis pas dans une lutte contre les grands groupes. Mais je pense qu'ils sont capables de tout faire pour essayer d'obtenir un maximum de profit. Voilà, je pense que c'est à l'état stratège, à un moment donné, de dire, écoutez, bon... Les petits amis, ça va bien, là, il va quand même falloir payer à peu près autant d'impôts que les autres, c'est quand même tout à fait normal. Voilà, il suffit de rappeler des règles. Je ne suis pas du tout, encore une fois, en lutte. Maintenant, je suis effectivement le défenseur du petit entrepreneur, parce que je suis pour la liberté d'entreprendre.
Plus que celui des petits salariés ?
Non, mais c'est pas contradictoire. Moi, je suis la candidate de la réconciliation, justement, entre le petit patronat, et je crois qu'il n'est pas en lutte, d'ailleurs. Le petit patronat n'est pas en lutte contre les salariés ne sont pas en lutte contre les petits patrons. C'est la financiarisation de l'économie, si vous voulez, qui recrée les conditions de cette lutte. Mais moi, je fais la différence entre ce que j'appelle les vrais patrons et les faux patrons, les patrons commis. Voilà. Les grandes entreprises sont dirigées par des patrons commis. Ils n'ont rien à voir avec des patrons. Ils mettent pas un centime de leur argent personnel. Ils ne risquent pas l'opprobre si leur boîte tombe. D'ailleurs, même si elle a des résultats très mauvais, ils partent avec le parachute doré et tout le reste. Ils sortent des grandes entreprises, ils sont en réalité nommés, hein, ou cooptés. Bon, ils n'ont rien à voir, ce ne sont pas des patrons. Les vrais patrons, ce sont ceux qui sont avec leurs salariés, qui bossent autant qu'eux, si ce n'est plus, qui ne se prennent pas de salaire quand la société est en difficulté. Vous voyez bien qu'on ne parle pas de la même chose.
Je vous posais la question parce que tout à l'heure, vous parlez beaucoup des patrons, peu des salariés. Vous avez répondu à la question. Et pour finir sur ce volet économique, je vais vous poser des questions un petit peu en rafale pour brasser d'autres sujets, même si le premier sujet nous permettait de voir beaucoup, beaucoup de dimensions économiques, je crois. Je vous demande de répondre pour ou contre et... rapidement, une petite explication. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Alors, pour ou contre un dispositif de taxation des très hauts revenus, alors que la taxe à 75% a été censurée, tout le monde le sait, par le Conseil constitutionnel, et que Pierre Moscovici promet un nouveau dispositif pour le mois de février?
Non, contre. Contre, moi j'avais proposé une augmentation légère d'ailleurs de la dernière tranche. Je pense qu'il est plus intéressant de proposer à ceux qui ont des moyens de pouvoir investir leurs moyens justement au soutien de l'économie réelle par des incitations fiscales.
Alors pour ou contre le nouveau mode de financement du métro du Grand Paris, puisque vous savez la rocade de 200 km autour de la capitale qui est estimée à 30 milliards d'euros, devrait être financée au bout du compte par une hausse d'impôts en Ile-de-France plutôt que par des crédits budgétaires comme annoncé à l'automne 2012 par Jean-Marc Ayrault.
Je pense que quand on n'a plus les moyens, il faut avoir le courage politique d'arrêter les grands projets. Je veux dire, c'est comme le TGV vers l'Italie. Voilà, je pense qu'on a, quand on est en situation économique aussi difficile que celle que nous vivons, réclamer des impôts supplémentaires à payer par les Français est profondément injuste.
Donc contre, non pas le mode de financement, mais le métro du Grand Paris, on aura compris. Et enfin, pour ou contre l'accord entre la presse française et Google qui s'engage à financer un fonds à hauteur de 60 millions d'euros sur 3 ans?
Écoutez, non, je suis pas particulièrement contre. Je pense que après tout, s'ils arrivent à se mettre d'accord pour obtenir une contrepartie qui est légitime de la part de Google, d'ailleurs, parce que c'est vrai que Google se sert, faut bien le dire, du travail de la presse et des journalistes. Donc c'est pas tout à fait anormal qu'il puisse y avoir une compensation.
Pas particulièrement contre ou plutôt pour?
Non, je veux dire, je trouve c'est bien qu'ils aient réussi à trouver ensemble un accord.
Bon, vous n'arrivez pas à dire pour.
Mais c'est pas ça. C'est que c'est entre deux. Je crois que
l'État
n'a rien à voir là-dedans. C'est à eux. Je veux dire, ce sont des entreprises privées. Ce sont ces entreprises qui doivent trouver un accord. Ils l'ont trouvé. Oui, je crois qu'on peut s'en féliciter.
Bon, en tout cas, merci. Vous avez répondu rapidement pour ces questions en rafale. c'était le but. Merci. On va s'arrêter là pour la deuxième partie de notre entretien consacré aux questions économiques. Alors, c'était un peu nouveau de vous interroger sur l'économie. ça fait quelques années qu'on le fait maintenant. Mais en tout cas, il y a des sujets sur lesquels les médias ne vous interrogent jamais. Et j'aimerais, ou très très peu, j'aimerais qu'on y vienne. J'en ai pris deux au hasard. Et ma première question concernera le secteur de la santé. Vous le savez, 2 à 3 millions de Français vivent dans un désert médical, c'est comme ça qu'on les appelle, loin d'un médecin généraliste en fait, à la campagne comme dans les quartiers défavorisés. Et le phénomène s'aggrave puisque de nombreux médecins partent à la retraite sans trouver de repreneurs, de successeurs. Ça, c'est un vrai problème de société, Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir et comment faire pour y remédier ?
Bon, d'abord, il va falloir revenir sur l'erreur absolument spectaculaire et historique qui a été faite de limitation du numerus clausus des médecins. On se retrouve dans une situation où on importe plus de médecins qu'on en forme chaque année. Et donc on va chercher des médecins de plus en plus loin, dont les compétences ne sont pas toujours d'ailleurs à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre du système de santé français. Plus il y a de médecins, plus les médecins iront s'installer dans les endroits où ils peuvent gagner leur vie. Et bien souvent, ils ne vont pas à la campagne, non pas tant parce qu'ils ne veulent pas être dans la ruralité, que parce que c'est trop de travail, parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà, donc il faut les multiplier. Pour les multiplier, il faut libérer le numerus clausus. Et puis, il faut arrêter la concentration des hospitalières telle qu'elle est menée, avec les conséquences que l'on peut voir aujourd'hui. Il faut absolument que des structures moyennes puissent persister, puissent exister, des maisons de santé, ce qui aujourd'hui n'est pas la voie qui est choisie.
Alors, mi-décembre dernier, la ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Marisol Touraine, dévoilait un plan d'action pour lutter contre les déserts médicaux. Il comprenait 12 engagements, parmi lesquels un stage obligatoire en cabinet libéral pour tous les étudiants en médecine générale ou encore 1500 bourses d'engagement de services publics par an d'ici 2017. Vous le connaissez, ce plan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va dans le bon sens ?
Oui, ça va. Oui, ça va dans le bon sens. Mais encore une fois, de toute façon, on sait que les erreurs qui ont été faites ne seront pas réglées avant 10 ans. Puisque le numerus clausus, la moyenne de formation d'un médecin, c'est 10 ans. Donc à partir du moment où on dessert le numerus clausus aujourd'hui, de toute façon, avant 10 ans, on aura des problèmes considérables en matière de santé. Puis il y a un autre phénomène, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas soigner toute la misère du monde aussi. Et une des raisons de l'engorgement et des difficultés majeures que subissent un certain nombre de milieux hospitaliers, c'est lié au fait qu'on a créé les conditions d'une immigration sanitaire, qu'on est obligé aujourd'hui d'assumer, avec peut-être demain des conséquences beaucoup plus graves que le simple engorgement des services qui y sont consacrés.
J'entends bien, vous n'êtes pas sans savoir que c'est évidemment pas ça qui ruine l'hôpital public dans les pourcentages qui sont dévoilés dans les comptes de la sécurité sociale. Ça fait partie, hein, c'est à hauteur de 10%. C'est un pourcentage qu'il ne faut pas négliger.
On s'approche de l'aide médicale d'État s'approche aujourd'hui de la barre de 1 milliard d'euros par an.
Oui, mais vous savez que le déficit de la sécurité sociale est immense. J'aimerais qu'on parle, puisque vous en parlez, des problèmes de l'hôpital public. Sur votre site internet, réagissant à la mort d'un enfant à naître dans la maternité de Port-Royal qui a ému tout le monde, Joëlle Melin, qui est votre déléguée nationale au projet, conseillère politique en matière de santé et elle-même médecin de formation, parle d'un cocktail explosif concernant la situation de l'hôpital public en manque cruel de moyens, tant humains que financiers. Alors, on entend son diagnostic, il est particulièrement juste, mais comment ne le serait-il pas ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on fait. Alors, tout à l'heure, vous parliez des maisons de santé, des hôpitaux de proximité. C'est ça, la solution ?
Oui, il y a ces solutions-là. Il y a aussi, mais ça, je crois que la Cour des comptes s'est déjà exprimée à plusieurs reprises sur ce sujet. Il y a des vraies difficultés de gestion de la sécurité sociale auxquelles personne n'a jamais osé toucher parce que, je ne sais pas, peut-être parce que les syndicats y sont extrêmement puissants et que les avantages acquis ne doivent pas être bougés, mais il y aurait un très grand audit à effectuer des différentes caisses qui manifestement fonctionnent pour certaines d'entre elles en dépit du bon sens. Et puis il y a des mesures aussi de rationalisation, des mesures qui sont simples. Et qui pourrait avoir des conséquences très importantes sur les économies à faire, notamment en matière de médicaments. Bon, moi, je veux dire, c'est la mère de famille qui vous parle. Moi, j'ai 3 enfants. Hein. Donc, avec 3 enfants qui ont maintenant 13 ans, en 13 ans, je dois avoir jeté l'équivalent de 3 armoires pleines de médicaments. J'avais proposé pendant la campagne présidentielle qu'on passe au système du médicament par sur ordonnance accordée par unité. Hein. Voilà quelque chose qui serait susceptible, à mon avis, d'avoir des conséquences très positives sur le gaspillage inouï qui existe et qui est fait au bénéfice, il faut bien le dire, des laboratoires.
Ça, c'est une mesure concrète, on l'a bien compris. Est-ce que vous pensez aussi que Bercy, qui impose des coupes budgétaires à tous les ministères sauf trois, ne devrait pas en demander au ministère de la Santé ?
Je remarque, pour vous donner un exemple, hein, que, par exemple, en matière d'immigration, au ministère de l'Intérieur, c'est le seul budget qui n'a pas fait l'objet d'une baisse. Bon, ben voilà, il y a des choix. Hein. Vous savez, le budget, c'est le reflet de choix politiques. Est-ce que la santé est une priorité ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Moi, elle m'apparaît être une priorité. Or, je n'ai pas le sentiment qu'on se donne les moyens de pouvoir la faire fonctionner correctement. Et on remarque que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, si vous voulez, il y a quand même un phénomène auquel les Français sont très sensibles, c'est qu'on leur demande de plus en plus. Et ils ont le sentiment, en contrepartie, d'avoir de moins en moins. Une école de moins bonne qualité, une santé de moins bonne qualité, une désertification, moins de policiers, moins de tribunaux, moins d'armées, moins de tout. Et en revanche, en contrepartie, une explosion des impôts. Là encore, c'est un cercle vicieux auquel il faut mettre fin. Car si les Français, je pense, n'ont pas de difficulté avec le consentement à l'impôt, ils finissent par avoir un gros problème de consentement à la dépense.
Alors, avant de passer à un autre thème comme ça sur lequel on vous interroge peu, je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de syndicats qui peut-être bloqueraient les réformes de la sécurité sociale. C'est pas la première fois dans cet entretien que vous en prenez un peu aux syndicats, déjà pour l'accord sur la sécurité de l'emploi. Vous avez un problème avec les syndicats, Marine Le Pen ?
Ah oui, j'ai un gros problème. Je pense que les syndicats sont complices de la situation de destruction de l'emploi. Je pense qu'ils défendent eux-mêmes et qu'ils ne défendent plus les salariés. Je pense que c'est une machine à engranger de l'argent public sans que les salariés y trouvent le moindre intérêt. Mais je pense que les Français sont assez d'accord avec moi, puisqu'ils ne sont, je crois, que 7 ou 8% à se syndiquer. C'est donc bien qu'ils ne se sentent pas représentés par les syndicats. C'est la raison pour laquelle je suis pour une grande loi de libération des syndicats. Tout syndicats devraient pouvoir se monter exactement au même titre qu'un parti politique et pouvoir présenter des élus, des candidats aux Français. Et puis tous les syndicats devraient être soumis à la même transparence financière et aux mêmes règles de fonctionnement financier que les partis politiques également. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire.
Il faut réformer les syndicats. Il n'y en a vraiment aucun aujourd'hui.
Il n'y a pas à les réformer. Le problème n'est pas de réformer les syndicats. Le problème, c'est de permettre aux syndicats. Un parti politique peut se créer demain. Eh bien, un syndicat devrait pouvoir se créer demain. Voilà. Or, aujourd'hui, il y a un monopole qui a été accordé à certains syndicats qui en usent et en abusent.
Très bien. Donc, je vous ai fait réagir là-dessus. J'aimerais vous faire réagir sur un sujet sur lequel on vous entend moins. C'est l'environnement. Rapidement, je vais prendre un fait comme ça de l'actualité. La commune de Bure, dans la Meuse, qui doit accueillir d'ici 2025 le plus grand centre de stockage de déchets radioactifs de France. Il est déjà qualifié de poubelle nucléaire française par les écologistes. C'est une piscine géante, en fait, enfouie à 500 mètres sous terre et qui fait polémique et qui relance la question de l'énergie nucléaire en France. Quelle est l'opinion du Front National sur ce sujet, puisqu'on l'entend assez peu ?
Écoutez, l'opinion est une opinion de bon sens. L'énergie nucléaire nous permet d'avoir une indépendance énergétique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il nous permet d'avoir de l'énergie quand même à un coût qui est raisonnable et de ne pas dépendre intégralement de pays étrangers, ce qui, sur le plan stratégique, m'apparaît comme un élément essentiel. Donc, c'est pas la panacée. C'est une énergie dangereuse, tout le monde le sait. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de possibilité pour l'instant de la remplacer, en tout cas pas par les gadgets écologistes type éoliennes et autres photovoltaïques. Il y a probablement une réflexion à mener sur nos capacités minières, hein, et notamment le grisou, notamment le gaz de schiste, avec des procédés qui soient des procédés qui respectent l'environnement. Donc je pense qu'il faut explorer ces voies-là, fracturation pneumatique, il y a beaucoup de progrès qui sont en train d'être faits, l'investissement majeur dans la recherche sur l'hydrogène, hein, puisque nous sommes un pays très riche de son or bleu, à raison de notre territoire maritime. Voilà, ce sont des sujets qui sont essentiels. Maintenant, encore une fois...
Et c'est possible de les financer dans le contexte actuel? On parlait tout à l'heure des coupes demandées par Bercy.
Oui, non, mais d'accord. Enfin, vous voyez bien que ça, ce sont des investissements d'avenir qui sont absolument fondamentaux et qui surtout vont avoir une conséquence directe en termes d'emploi dans notre pays. Je veux dire, je vois le bassin minier que les avec une stupidité inouïe d'ailleurs, les dirigeants politiques ont accepté de transformer, d'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils ont muséifié le bassin minier alors que il y a demain probablement les conditions pour créer à nouveau de l'emploi grâce aux richesses minières du bassin minier. Mais vous savez, le premier acte en matière d'écologie, c'est de lutter contre la mondialisation sauvage.
Oui, alors dans votre programme présidentiel, il était question évidemment d'écologie et vous prôniez un nouveau modèle économique soucieux de l'environnement. Je vous cite, produire au plus près, retraiter sur place.
Bah oui.
Ça va dans ce que vous disiez.
Tout à fait. Bah oui, c'est la première acte écologique, c'est ça. Lorsque vous voyez que des cochons, avant d'arriver dans votre assiette, on fait 50 000 kilomètres en avion ou en train ou en camion. On voit bien que là, il y a quand même une contradiction majeure de la part des Verts à être en même temps des mondialistes convaincus et en même temps, soi-disant, des gens attachés à la défense de l'écologie.
En même temps, quand on lisait le programme d'Eva Joly, il y avait aussi cette mesure de recentrer sur le territoire national la production, les outils de production.
Oui, bien
en
sûr,
tout cas.
Mais c'est pas tout le dire. Il faut politiquement le faire. Or, politiquement le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des droits de douane. Est-ce que Mme Joly est pour des droits de douane aux frontières? Je ne suis pas sûr. Bon, donc il faut se donner les moyens. Ce n'est pas le tout d'avoir un discours et de dire « Ah, ce serait bien ». Ça, c'est la danse de la pluie, ça, vous voyez. C'est qu'il faut que l'État se donne les moyens d'éviter, justement, les délocalisations et de donner un avantage aux productions.
Alors, il y avait un autre programme présidentiel comme le vôtre qui prenait ça en matière d'écologie, évidemment. Celui de Jean-Luc Mélenchon. Il était aussi pour mettre des droits de douane, un protectionnisme intelligent, comme on le disait. Il était aussi pour recentrer la production au territoire français pour effectivement produire plus près, produire plus propre. Finalement, là, c'est un point de rencontre.
Non, pas du tout, parce que lui veut mettre des droits de douane aux frontières de l'Europe. Et ça ne règle pas un problème majeur qui sont toutes les délocalisations effectuées dans des pays d'Europe qui font à l'égard de la France un dumping social. Allons pas trop loin, regardons l'Allemagne. L'Allemagne, élève des porcs, par exemple, hein, en allant chercher du personnel qu'elle paye 3 ou 4 euros de l'heure. Voilà les conditions d'un dumping social qui va avoir probablement des conséquences très graves sur l'industrie porcine française dans, à mon avis, très peu de temps, hélas. Par conséquent, les droits de douane mis en œuvre aux frontières de l'Europe, ça n'est pas suffisant. Et de surcroît, M. Mélenchon est très malhonnête car il sait que jamais l'Union européenne ne mettra des droits de douane aux frontières de l'Europe pour une raison simple, c'est que l'Union européenne est ultra-libérale. Voilà. Elle a fait un choix, elle est pour la liberté totale des échanges. Et non pas pour une protection aux frontières. Donc elle n'en mettra pas. Voilà. Donc on peut toujours espérer que les choses se passent, mais c'est comme si vous me disiez est-ce qu'on pouvait à l'époque améliorer l'Union soviétique? Non, on pouvait pas l'améliorer. Fallait la détruire.
L'Union soviétique, l'Union européenne, on va peut-être pas pousser la comparaison jusque-là.
Moi je la pousse complètement jusque-là. Complètement jusque-là. Je pense qu'il y a autant de différences entre l'Europe et l'Union européenne qu'il y en a entre la Russie et l'Union soviétique, tout à fait.
Alors, vous parliez d'un protectionnisme intelligent. Alors, à entendre les politiques, tous leurs protectionnismes sont des protectionnismes intelligents. On voit qu'il y a une différence entre le vôtre et celui de Mélenchon qui dit aussi que c'est un protectionnisme intelligent. Vous, pour qu'on soit bien clair pour nos auditeurs, c'est un protectionnisme, donc remettre des droits de douane et un protectionnisme aux frontières françaises,
oui.
Ce qui pose donc un problème avec, vous l'avez dit, nos partenaires privilégiés, ce sont nos partenaires européens. Est-ce que vous pensez vraiment que dans la balance commerciale avec l'Allemagne, ça va pas un peu être négatif pour la France?
Non, je crois que ça va être très positif, au contraire. Voilà, parce que je pense que ça crée de surcroît une ressource supplémentaire. Vous savez très bien que j'ai proposé pendant la campagne présidentielle d'augmenter le SMIC jusqu'à 1,4 fois, de faire prendre en charge par l'État 200 euros des cotisations salariales pour les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, que je finançais par une contribution sociale à l'importation d'un montant dérisoire de 3%. Je veux dire, tout ce qui rentrait dans nos frontières était taxé à 3%.
Il y a aussi des choses qui sortent de nos frontières. Et si ça sort avec nos droits de douane, les produits allemands qui, eux, rentrent surtaxés, vous pensez vraiment que les Allemands ils vont venir nous acheter nos produits quand ils vont sortir de nos frontières?
Non, mais écoutez, encore une fois, arrêtez avec vos exportations. Pensons, encore une fois, à la reconquête de notre marché intérieur. Parce qu'on n'achètera plus rien à l'Allemagne, voyez-vous, si on n'a plus les moyens de le faire et si on a 15 millions de chômeurs, qui est la barre vers laquelle on s'avance très tranquillement quand même. Bon. Donc, si l'Allemagne a envie de protéger ses secteurs économiques en mettant des droits de douane elle-même, elle le mettra. Comment on faisait avant? On a toujours fait ça. Je veux dire, il y a toujours eu des accords entre les pays, il y a toujours eu des accords d'échange ou de libre-échange. En l'occurrence, les droits de douane ne se mettraient pas, évidemment, dans mon esprit, en priorité à l'égard de nos partenaires européens qui ne font pas de dumping social. Mais par exemple, sur le porc, oui, on mettra des droits de douane sur l'Allemagne. Oui, parce que sur le porc, ils font un dumping social. Mais sur les autres produits, à partir du moment où il y a un niveau un peu équivalent, il n'y a pas de raison de mettre des droits de douane. Le fait de pouvoir mettre des droits de douane n'est pas le fait d'en mettre partout, en toutes circonstances, à l'égard de tous les pays, sur tous les produits. C'est ça, quand je parle du protectionnisme intelligent, c'est qu'il faut moduler. Je veux dire, c'est de la microchirurgie, mais encore une fois, c'est ce que fait la Chine, c'est ce que font les États-Unis. Les États-Unis, quand ils ont mis des droits de douane sur l'importation des pneus, c'était pour défendre l'industrie des pneus américains, vous voyez. Donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être caricatural quand on cherche à présenter le programme qui est le nôtre. Et de toute façon, je veux dire, on y viendra.
Bah écoutez, c'est pour ça justement que je vous posais ces questions. Loin de moi l'idée d'être caricatural.
Non, mais c'est pas vous, mais c'est souvent présenté de manière caricaturale. Vous voulez monter des frontières, vous voulez taxer, etc. Non, on veut protéger, encore une fois, résorber cette concurrence internationale déloyale.
Les auditeurs vous ont entendu. Ils se feront leur idée, ça sera le mot de la fin. Marine Le Pen, merci d'avoir répondu. Sans langue de bois, on peut le dire, le contrat a été rempli à mes questions.